Bonsoir. Le conflit interethnique contre les peuples Teke et Yaka qui a éclaté depuis le mois de juin dernier dans le Maïndombe vient de se transposer également dans la province du Kwilu. Samedi 24 septembre 2022, des assaillants armés ont attaqué le village Bukusu situé dans le territoire de Bagata au Kwilu. Plusieurs personnes tuées, dont le chef du village décapité et plusieurs maisons incendiées. Information livrée hier dimanche à Radio Kapi par l'administrateur du territoire de Bagata, Joseph Mokoto, qui signale aussi les déplacements massifs de la population des Bukusu vers Fatundu. Selon lui, le nombre des morts n'est pas encore déterminé. Comment expliquer la persistance de ce conflit? Nous en parlons ce soir avec Dédé Moupassa, il est député national élu d'Idiofa et membre de l'Union sacrée de la nation. Dédé Moupassa, bonsoir.
Bonsoir à vous et bonsoir à tous les auditeurs.
Jonas Tchombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise. Jonas Tchombela, bonsoir.
Bonsoir.
Et Fidèle Ayou Lumea, enseignant et chercheur dans le domaine de la transformation des conflits. Fidèle Lumea, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déjà très nombreux à commenter ces sujets. C'est le cas de Congo Congolo qui se pose la question de savoir qui arme ces gens-là. Et Jacques Biaounda, depuis Sumbawanga, en Tanzanie, la persistance de ce conflit est due à l'absence de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Dans le Bandundu, vous nous suivez sous la 98.0. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal+, channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, le conflit interethnique contre le peuple Teke et Yaka qui a éclaté depuis le mois de juin dernier dans le Maïndombe vient de se transposer également dans la province du Kwilu. Samedi 24 septembre 2022, des assaillants armés ont attaqué le village Bukusu situé dans le territoire de Bagata au Kwilu. Plusieurs personnes tuées, dont le chef du village décapité et plusieurs maisons incendiées. Information livrée dimanche à Radio Kapi par l'administrateur du territoire de Bagata, Joseph Mokoto. On l'écoute.
C'était hier, le village de Bukusu, qui est dans le groupement Fayala, il y a nos frères Yaka qui ont traversé la rivière Kwango, où ils ont assassiné les chefs du village et quelques personnes, ainsi que certaines maisons incendiées. Il y a des déplacements qui fuient vers Fatundu et les villages environnants, dont le capitaine de la police nous a rassurés, et il y a aussi une dispersion sécuritaire au niveau du port de Fatundu, où on commence aussi à résister les déplacés pour savoir les effectifs. Au réunion du comité de sécurité du territoire de Bagata, nous avons pris des mesures tout d'abord d'informer notre hiérarchie qui est la province et aussi demain le comité de sécurité de Bagata va faire la descente sur l'île à Fatundu pour bien investiguer.
Au total, combien de personnes sont tuées à Bukusu?
On n'a pas la précision sur le nombre de personnes. Vous savez que quand il y a la panique, les gens fuient. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont les noms. Ça, c'est peut-être, ça va venir après.
Du côté de l'autorité, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur affirme que les FRDC, les éléments de la police nationale congolaise, sont déjà déployés dans la région où il y a des conflits. Selon Daniel Asselo, le gouvernement central a déjà pris les dispositions utiles pour mettre fin à ce qui devient un conflit armé. On l'écoute au micro de Noëlla Luzitu.
On est dans un conflit qualifié d'armée. Les FRDC sont déployés sur l'essentiel du territoire de Kwamutu. Parce que nous faisons face à des gens armés qui vivent dans des forêts, dans des savanes, dans des fermes. Ils sortent et quand vous avez le malheur de passer par là, votre sort est connu. Moi-même ici, j'ai conduit une délégation à Kwamutu, j'ai conduit la même délégation à Kenge, après ces deux missions, au jour d'aujourd'hui, les FRDC, je disais, est déployé sur l'essentiel du territoire des Kwamout, là où est né les conflits. Sur le plan tactique, je ne peux pas me permettre de vous dire, voilà, nos militaires sont à tel endroit, ils ne sont pas à tel autre. Non, c'est des choses qui sont en train de se passer. Nous sommes en train de travailler avec la police nationale congolaise et les FRDC pour que cette situation prenne fin.
Dédé Moupassa, député national élu d'Idiofa et membre de l'Union sacrée de la nation, le conflit interethnique entre le peuple Téké et Aka qui a éclaté depuis le mois de juin dernier dans le Maïdoumbé vient de se transposer également dans la province du Kwilu. Un conflit parti sur une affaire des taxes pour certains et des terres pour d'autres. Comment vous expliquez cette persistance de ce conflit malgré le renfort des militaires et des policiers envoyés dans cette partie du pays?
Oui, merci madame. Je prends fort un rapport fiable sur tout ce qui se passe là-bas pour dire que
Dédé Moupassa, s'il vous plaît. Alors, Dédé Moupassa, vous allez nous excuser, votre ligne téléphonique n'est pas bonne. La réalisation
non,
va...
C'est bon maintenant?
Ça va pas. La réalisation essaye de vous rappeler.
D'accord.
Alors, en attendant de retrouver Dédé Moupassa, Jonas Tchombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise, comment vous expliquez la persistance de ce conflit Tékéaka qui vient de se transposer dans la province du Kwilu, un conflit qui a commencé dans le Maïdoumbé. Aujourd'hui, le Kwilu est aussi touché.
Oui, merci pour la question. Nous estimons que gouverner, c'est prévoir. Nous avons connu beaucoup de conflits communautaires dans notre pays et qui persistent chaque année. On a toujours un type de conflit qui surgit quelque part. Nous connaissons ce qui s'est passé avec les Malendou dans ce pays. Nous connaissons ce qui s'est passé à Yumbi, ce qui s'est passé dans le Kassai avec le phénomène Kamoena Sapu. Aujourd'hui, c'est le Téké, le Yaka dans le Kwamoutou avec répercussions sur d'autres provinces. C'est comme si le dirigeant de la République n'arrive pas à tirer les leçons de tous ces conflits. Vous voyez, les conflits qui sont en train de fulminer à travers la République et de prendre des mesures qui s'imposent. Ceci nous semble extrêmement inquiétant parce que la paix est troublée, les villages sont brûlés, les gens sont tués en toute impunité. Donc, tous ces éléments nous font croire, comme si on n'a pas pris au sérieux ces réalités-là qui nous sont imposées en ce moment. Deuxième chose, nos services de sécurité et de renseignement, ils ont pour mission aussi d'investiguer, de prévenir certaines choses. Je pense qu'à ce stade, comment nous sommes retrouvés devant des conflits éclatants, déjà éclatants, j'allais dire, des conflits déjà éclatés, alors que ce conflit quand même ont eu des origines et des gens qui ont cogité pour en arriver là. Les services de sécurité n'ont pas été assez sensibilisés pour prévenir ce danger. Donc, nous pensons qu'à ce stade, cette recrudescence des conflits communautaires nécessite un regard beaucoup plus particulier parce que ça commence à devenir inquiétant. Nous pouvons même remonter plus tard dans une interview que le chef de l'État a accordée à la presse internationale. Il est revenu sur ce conflit pour dire qu'il y aurait la main noire. Donc, nos services de renseignement devraient nous rassurer que nous sommes réellement sécurisés. Il y aurait la main noire. Nous nous souviendrons aussi que dans cette partie de la République, il y a eu des troupeaux qui circulaient avec des gens presque inconnus qui circulaient à cette partie de la République. Nous avons vu aux dernières nouvelles qu'on nous présente encore des gens qui ne savaient parler pas des langues locales. À quoi ça rime? Et ça profite à qui? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on cherche en amenant les conflits plus proches de la capitale? Donc, nous pensons que ça paraît extrêmement inquiétant et que les autorités militaires, policières et même politiques devront faire un état de lieu de la question sur l'ensemble du pays pour prévenir ces dangers qui nous reculent. Il y a des humains que tout le temps nous sommes en train de perdre. Et nous pensons même ici à ce qui est les états généraux, les conflits communautaires, parce que leur résistance devient de plus en plus un danger
pour la République.
Alors, un conflit qui est parti, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une affaire des taxes pour certains, et pour d'autres, c'est une affaire des terres. Un conflit qui tend à se généraliser. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi des militaires et policiers pour remettre de l'ordre dans cette partie du pays. Mais malgré ce renfort, les tueries se poursuivent. Et les gens se posent même la question de savoir qui arme ces assaillants et comment ils arrivent à se procurer des armes.
C'est la question que nous nous posons. Le ministre de l'Intérieur, qui venait d'intervenir tout à l'heure, a parlé qu'ils ont affaire à des hommes armés. Comment nous sommes arrivés à voir à l'intérieur de la République des hommes armés et qui sont en train de terroriser aujourd'hui des gens qu'on ne sait pas maîtriser? Ça veut dire que le service de renseignement, le service de sécurité, les administrateurs qui sont sur place n'ont pas été assez bien prudents pour surveiller le mouvement des gens. Nous sommes arrivés à un moment donné, curieusement aussi, c'est le moment où le gouvernement renforce la présence militaire sur place et le conflit s'intensifie. Ça commence à devenir inquiétant. Ça ne devrait pas s'intensifier, ça devrait s'atténuer. Là, nous sommes dans une phase où ça s'intensifie et se généralise, ça attaque d'autres provinces. Qui vous dit que demain, ça ne peut pas attaquer le Kasaï ou ça ne peut pas attaquer le Congo central ou Kinshasa où nous sommes? Donc, nous pensons que cette question, même si on ne sait pas nous dire les stratégies militaires sur la place publique, ça commence à devenir extrêmement inquiétant. Comment voulez-vous qu'au moment où on envoie des renforts et les conflits se généralisent et s'amplifient même et qu'il y a des vies de mort qui continuent? Qui sait aujourd'hui quel village est projeté dans les visères de ces gens qui ont pris la profession de tuer? Donc, est-ce que la main noire dont on parle qui serait derrière? Pourquoi on ne peut pas la dénoncer sur la place publique? Parce que c'est l'opinion qui peut la décourager. Donc, la gouvernance peut aussi donner l'information à la population, au lieu de nous laisser dans la spéculation avec les dangers qu'il y a. Il y a un ami qui m'a appelé à partir de Kipit, il n'y a pas longtemps, qui me disait que la situation sécuritaire devient de plus en plus inquiétante. Ce qu'il y a comme risque, c'est quoi? La route là qui nous amène vers le Kassai jusqu'à dans le reste du pays là-bas risque d'être une route qui sera prise en otage par les terroristes. Est-ce qu'il n'est pas grand temps qu'on puisse prévenir ce danger? Les maisons qui sont brûlées, les vies humaines qui sont faites, il nous faut combien cela pour qu'on arrive à agir de façon plus efficace? Ça, c'est bien très inquiétant. Nous ne sommes pas en train de nous charger ici le gouvernement, mais nous sommes en train de les rappeler leur mission. Ça, c'est eux qui ont reçu le mandat de protection des personnes et de leurs biens.
Fidèle Ayoulouméa, vous êtes enseignant et chercheur dans le domaine de la transformation des conflits. Comment vous analysez cette situation?
Sur le plan analytique, vous avez souligné quelques éléments d'analyse profonde d'un conflit. Sur le plan des causes, vous avez mentionné deux, mais nous pouvons les rejoindre. Vous avez parlé d'un conflit ethnique, interethnique. Ça, c'est ce que nous mettons dans la catégorie des conflits culturels. Parce qu'il n'y a pas la question identitaire ici. Quand vous parlez interethnique, il y a les identités. Mais c'est plutôt la question, la réponse 2 que vous avez soulignée, qui est la caractéristique très sortie de ces conflits, que nous mettons parmi les 5 conflits et causes, c'est le conflit structurel. À suivre les amis qui ont été sur place, et vous l'avez mentionné, c'est la structure des prix qui est la cause profonde de ces conflits. Et la structure des prix peut être aussi d'autres structures. Les routes peuvent être des structures qui peuvent créer un conflit. Donc, sur le plan causal, ce conflit est à base structurelle. C'est la structure des prix. Le problème ici, il y a quelqu'un qui a mentionné quelle est la politique du pays, de la province du Maïndombe sur les prix. Qui met les prix? Qui fixe les prix? Parce que à l'origine, nous avons appris que on a vendu des terres et les autres ont commencé à produire, les Yaka ont commencé à produire et soudainement les Teke viennent pour dire non mais écoutez, nous devons taxer, au lieu d'un sac, nous allons taxer 5 sacs. Mais qui a dit à ces gens-là qu'on doit aller à 5 sacs? Quelle est la politique de Maïndombe sur la taxation, sur les structures des prix? Voilà les premières questions et les premières analyses. Maintenant, vous avez aussi mentionné au début, et puis mon confrère de la société civile a mentionné quelques éléments que nous répertorions ici. Ce sont des caractéristiques d'un conflit ouvert. Le conflit n'est plus latent, il est ouvert. Il y a une polarisation de la société, Tekeyaka que vous avez mentionné, qui part jusque dans les Kwilu. Il y a une rupture des relations. Ça, ce sont des caractéristiques d'un conflit ouvert. Et nous remarquons aussi, dans ce conflit ici, il y a une triangulation, une mobilisation des alliés. Vous avez entendu parler de l'armée et qu'on est en train de mobiliser par-ci, par-là, et des mobilisations de fonds. Quelqu'un d'autre parlait des politiciens qui interviennent. Ça, ce sont des caractéristiques. Ce que nous sommes en train de vivre ici, ce sont des caractéristiques d'un conflit ouvert. Voilà, sur le plan analytique, ce que je peux dire.
Vous parlez des conflits ouverts, conflits structurels. Vous avez suivi le ministre de l'Intérieur tout à l'heure dans le son qu'on a balancé pendant l'émission. Il dit que le gouvernement central a déjà pris les dispositions utiles pour mettre fin à ce qui devient un conflit armé.
Sur le plan analytique, nous n'avons pas un conflit, remarqué des éléments d'un conflit armé dans ce qui se passe dans le Maïndomb. Ce sont des caractéristiques. Sur les causes, c'est ce que nous venons de mentionner, c'est les causes structurelles. Ce qu'il est en train de dire, ce qu'on est en train de donner, ce sont des caractéristiques d'un conflit ouvert. C'est-à-dire que maintenant c'est connu de tout le monde, ce n'est plus latent au niveau premier, c'est maintenant l'étape où nous avons c'est un conflit ouvert, c'est connu de tous, et maintenant tout le monde peut spéculer comme ils le veulent. Parce que si l'analyse n'est pas bonne, les réponses seront mauvaises, et les approches seront mauvaises, et la conclusion sera très mauvaise. Il n'y a pas un conflit armé ici, il n'y a pas de main noire. La main noire ici, c'est la structure des prix. Elle est noire parce qu'on ne la voit pas, elle est invisible parce qu'on ne la voit pas. Mais sur le plan analytique, nous la voyons. Dès le début, quand on a commencé à parler, nous avons cherché à savoir qu'est-ce qui cause le conflit entre Yaka et Teke, les peuples ont vécu depuis longtemps, mais nous, dès qu'on nous a dit que nous, mais voilà, il y a les Teke qui ne sont pas d'accord avec le prix. Là, vous comprenez, quand vous touchez les prix, vous parlez de la politique des prix au Congo. Donc, dans le Maïndombe, nous devons chercher à savoir qui met le prix sur les denrées agricoles. Et puis, il y a une complicité ici, une complication, c'est sur le plan analytique, c'est nous sommes dans une économie de marché. Donc, il y a l'économie de marché. Dans l'économie de marché, est-ce que les prix sont libéraux? C'est n'importe qui fixe le prix ou bien c'est l'État qui régule le prix? Voilà toutes ces questions que sur le plan analytique nous devons répondre.
Fidel Oumeya, ce conflit a commencé dans les Maïndombe, à Kwamout plus précisément. Aujourd'hui, ce conflit s'est transposé dans les Kwilu. Comment ça s'explique?
C'est ça la polarisation. Donc c'est un conflit ouvert. Aussi longtemps que vous ne répondez pas tout de suite à un conflit ouvert, c'est comme un feu qui s'embrase. D'ailleurs, on le dit, le conflit, c'est comme un feu. Il s'est embrasé. Maintenant, ce qui est bien ici est que dans les approches, déjà, il y a au niveau top, nous avons les autorités qui interviennent déjà, et au niveau des réponses au milieu, la société moyenne, disons, nous avons les chefs coutumiers qui interviennent, nous avons l'armée qui intervient, la police intervient. Ça, c'est déjà positif pour tuer ces conflits à l'œuf. Donc, nous devons être contents de voir que les signaux d'analyse pour éteindre un conflit se présentent déjà, quitte à les renforcer. Ce qui nous manquons maintenant, c'est la société civile qui doit s'impliquer pour la réconciliation. Mais les signaux d'un apaisement de ce conflit se présente déjà. C'est ce qui est positif.
Mais s'il y avait ces signaux positifs, le conflit ne s'étendrait pas jusque dans le Kwilu, Fidel Oumeya. Ça s'arrêterait dans le Maïndombe.
Oui, c'est tout à fait normal. C'est comme un feu, comme je l'ai dit. Nous sommes au niveau des caractéristiques. Ce que vous mentionnez là, c'est les caractéristiques normales d'un conflit ouvert. S'il était latent, c'est que dès qu'on a appris que non, mais il y a des tueries ou bien il y a des attaques, c'est là où la police devait intervenir, parce que maintenant il y avait question de la loi et l'ordre qui devait être assuré par la police. On a trop attendu et le conflit a pris corps. Il est au niveau d'un conflit ouvert. À ce niveau, Tout ce que vous allez mentionner ici, c'est des, ce sont des signaux normaux d'un conflit ouvert. Jusqu'à ce qu'on va aller à la table des négociations pour commencer à parler maintenant d'une transformation des conflits. Mais ce que nous voyons, ce sont des signaux normaux de caractéristiques d'un conflit ouvert.
La réalisation me signale que Dédé Moupassa est de nouveau en ligne. Vous êtes là, Dédé Moupassa?
Oui, je suis là, madame.
Je rappelle d'abord que vous êtes député national, élu de Didiofa et membre de l'Union sacrée de la nation, conflit interethnique contre le peuple Téké et Aka, qui a éclaté depuis le mois de juin dernier, dont le Maïndombé vient de s'étendre également dans la province du Kwilu. Comment vous vous expliquez cette persistance de ce conflit malgré le renfort des forces de l'ordre envoyées dans ce coin par le gouvernement central pour étouffer, pour mettre fin à ces conflits?
Merci madame. Je vous disais tout à l'heure que je n'ai pas encore un rapport, que ce soit du gouvernement, que ce soit un rapport de la province. On entend dans des spéculations, on entend comme tout le monde, au travers des radios, qu'il y a un conflit entre les Yaka et les Téké. C'est pas qui a identifié ces assaillants, qui a parlé des Yaka. C'est vrai qu'il peut y avoir des disputes autour de terres. On dirait que c'est un conflit de terres à Kwamout. Mais quand on généralise, c'est dangereux pour les Yaka qui vivent côte à côte à Kinshasa, à Mbandaka, et partout ailleurs, parce que ce sont des communautés qui sont dissimulées dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc, j'hésite encore. Pour moi, ces gens-là qui circulent avec des machettes, c'est des groupes organisés. Et ils ont commencé à Kwamout autour d'un conflit, effectivement, qui avait entre deux familles, peut-être des origines identitaires, Yaka et Téké. Mais à la longue, je pense qu'il faut qu'on examine correctement. J'ai suivi l'autre qui me parle, le monsieur qui vient de parler tout à l'heure, des structurels, de tout ça. Oui, je concède dans leur spécialité. Mais pour moi, on doit réqualifier, qu'on ne parle pas des Yaka comme si tous les Yaka avaient des problèmes. Il faut qu'on réduise ça à ces causes-là. Alors, mais maintenant, dans le Bandundu ou dans le Kwilu, je veux dire, est-ce que ce sont... c'est le même groupe qui a semé ce désastre au niveau du Kwamout qui est en train de traverser jusque dans le Kwilu où ça entamait un autre groupe pour un autre problème. Ça, c'est des éléments qu'on n'a pas encore, mais je pense qu'on doit voir les choses dans ce sens-là. Mais sinon,
vous estimez des démons pas ça.
Pour moi, c'est ça l'analyse.
Vous estimez donc pour vous, Dédé Moupassa, que c'est un mouvement bien organisé et bien structuré qui est derrière cette situation dans le Grand Bandundu?
Derrière, je ne sais pas encore dire, mais un mouvement organisé, oui. Hein, parce que c'est le même modèle, même type d'opération, les mêmes armes qu'ils utilisent. Ils quittent Kwamout, d'où ils sont venus. Mais je pense qu'ils ont ramassé l'histoire des chefs et ainsi de suite et ils sont en train de circuler. Et il faut qu'on fasse cette traçabilité. La direction qu'ils ont prise là, c'est pas au hasard. C'est une direction qui les amène quelque part, bien déterminée. Parce que là, quand ils descendent, c'est le sud, c'est la capitale, c'est Bandunduville, c'est Bakata. Et Bakata, vous percez, c'est... Vous pouvez aller dans toutes les directions. Vous pouvez aller à Bulungu, vous pouvez aller à Massimanimba. Ça sont des grands centres qui ils veulent créer des lois aux alentours ou quoi. Donc, moi, je pense que sur ces points-là, il faut qu'on analyse parce que si c'était au hasard, ça allait être des balades, ça allait être pas, ça ne pouvait pas être un groupe qui tue en passage. Non. Moi, je pense qu'on doit bien examiner. Les spécialistes sont là, ils pourront nous aider. Mais pour moi, en tout cas, c'est des gens qui sont organisés et ils ont eu à temps de se préparer. Ils ont eu le temps de se préparer et de faire ce qu'ils sont en train de faire.
Et vous, élu du Grand Bandundu, est-ce que vous avez eu le temps de parler avec les différents chefs coutumiers pour connaître le fond du problème?
Madame, de temps en temps, c'est cette confusion qu'on fait dans le partage du pouvoir dans ces pays. L'État a tout organisé. Les députés, c'est la population. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est le gouvernement. Les députés n'ont aucun commandement donné à la police, à s'organiser, à poursuivre des enquêtes. Nous avons un service de l'année. Nous avons un service de Debian pour l'armée. Nous avons le ministère de l'Intérieur. Nous avons des services qui doivent, comment on dit, la police, l'armée et tout cela. Ça, c'est entre le maire du gouvernement, du maire de l'État. C'est vrai que nous faisons partie de l'État, mais à une dimension bien déterminée. Nous, pour avoir la vérité dans cette histoire, il faut une mission d'enquête qu'on n'a pas encore fait. Mais on a des péchés. Nous revenons de vacances. Les collègues qui sont revenus de ces vacances-là, effectivement, on va se retrouver pour en parler. Mais c'est vrai, moi, je prends déjà le devant parce que j'ai des antennes de mon parti, j'ai des antennes de famille, j'ai tout cela. Chacun informe d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas avec ça qu'on va officialiser un problème si grave qui se passe au pays. Moi, je pense que c'est le ministre de l'Intérieur qui doit faire un communiqué pour nous dire. Et c'est au gouvernement d'associer le député. Que ce ne soit pas que des petits députés d'origine, non. Les députés spécialistes à la matière ou les députés qui ont un leadership qui peut, d'une manière ou d'une autre, détecter d'abord c'est quoi les problèmes et puis ensuite, qui peut participer pour mettre fin. Et quand on a fini, c'est pas fini, il faut maintenant modalité de réconciliation parce que après ce brouillard, personne ne va déplacer son village. La vie va continuer. Donc c'est dans ce sens-là, madame.
Alors il y a des auditeurs qui pensent que si ce conflit persiste, c'est parce qu'il y a, cela est dû à l'absence de l'autorité de l'État dans cette partie du pays.
Mais exactement, le pays souffre. On va pas se cacher. Non, le pays souffre de la démonstration. Le pays souffre, vous le savez. Nous avons des problèmes dans ce pays. Et nous nous battons à l'Union sacrée. Le chef de l'État, c'est conscient. On est conscient de cela. On n'a pas assez de policiers. Si on a des policiers, on n'en a pas assez qualifiés. On n'a pas assez. On va pas dire ça à la radio ou dans le média comme ça. Ce sont des problèmes, nous, Congolais, nous savons. Mais même s'il faut aller faire une intervention, il faut avoir des routes. Mais ils passent sur des routes où on sait très bien que le militaire doit venir par hélicoptère ou faire parachuter. Parce qu'il y a un véhicule qui va quitter Kinshasa, va atteindre le village qu'on citerait, ils vont arriver comment? Et surtout s'il pleut là-bas, le camion va s'embourber. On va pas tout dire comme ça, madame. Chaque jour, la gouvernance de l'Union sacrée, c'est d'établir l'autorité de l'État. C'est l'une des missions que le chef de l'État a pris comme engagement, sachant que effectivement, depuis des années, nous avons des problèmes sécuritaires au pays.
Vous allez rester en ligne, Dédé Moupassan. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province de la Tshopo.
Depuis Kisangani, dans la province de la Tshopo, moi je pense que les autorités doivent prendre au sérieux cette situation qui prend déjà une allure inquiétante. Les autorités doivent d'abord approcher ceux qui sèment la désolation, afin de les écouter, savoir la motivation de leur démarche. Parce qu'on ne peut pas s'attaquer directement aux effets afin de s'attaquer aux causes. Il est important d'impliquer les notables de ces coins pour une consolidation de la paix.
Que pensez-vous de sa proposition, Dédé Moupassan?
Oui, c'est l'un des éléments. Mais écoutez, madame, les propositions de solutions ne peuvent venir que quand on a saisi c'est quoi le problème. Si on fait face à un groupe de bandits qui veut saboter le pays. Madame, est-ce que vous savez que depuis qu'on a prononcé le problème de blocs pétroliers, et c'est vous savez que Kwamount, toutes ces régions-là, c'est la région dont il y a les blocs pétroliers. Ça, vous n'ignorez pas cela. Et les gens ont commencé par menacer la République pour dire c'est dans des zones de ceci, zones de cela, vous ne pouvez pas. Et ensuite, et pour éviter que...
Et là, vous faites allusion aux ONG qui, parce que ce sont les ONG,
mais oui, les ONG qui ont programmé cela de leur droit. C'est pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Mais aujourd'hui, les gens qui veulent saboter, ça sera pas la première fois. Jusqu'au jour où on n'a jamais exploré notre coltan, ça vous le savez. Parce qu'il y a des bandes armées tout au long là-bas. Mais ici, c'est pour le projet de pétrole. Est-ce que c'est pas cela, c'est pour empêcher l'exploitation de ce pétrole? Alors, pour l'instant, j'ai dit, il faut chercher ces causes sérieusement. Et ensuite, on va faire donner des propositions. Qui est impliqué directement, qui ne l'est pas? Les politiques, j'ai entendu les gens dire, ce sont les députés, ils veulent faire ceci pour les élections. C'est bien de le faire, c'est une piste qu'il ne faut pas rejeter aussi. Mais quand on fait le regroupement, dans ce genre de problème, on fait des regroupements et ensuite, on tire des conséquences et on passe maintenant aux propositions, madame.
Jonas Tiombela, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujimayi.
Lionel Nathan Kachama, depuis Mbujimayi. Je remercie tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Pour moi, c'est vraiment un échec de plus de la part du gouvernement congolais dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Cette situation vient s'ajouter à plusieurs autres situations qui sévissent déjà dans le pays et ça nous laisse vraiment perplexes. Moi, je souhaiterais que l'on ne puisse pas revivre ce qu'on a vécu en 2017 avec l'avènement des décès du chef Kamuina Sapu, ce qui avait causé beaucoup de peine auprès de la population du Grand Kasaï. Alors, comme cette situation est en train de se dégrader davantage, j'encourage le gouvernement de prendre des mesures urgentes telles que déclarer ces villages une zone opérationnelle afin de rétablir la paix avant que cette situation ne puisse se généraliser dans tous les grands Bandundu.
Jonas Tombé, la réaction, il vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure, mais il propose que l'on puisse déclarer les zones en conflit, zones opérationnelles.
Oui, je pense que le compatriote de même Bujimaï est en train de rencontrer mon analyste tout à l'heure quand je faisais allusion à ce qui s'est passé pour le cas de Kamuina Sapu, le cas de Yumbi, Elema Lendu, aujourd'hui c'est le TKAK. C'est ça, le conflit dépasse largement le problème du départ, celui que chercheur peut évoquer sa mère de prix. Et le ministre déjà nous disait qu'ils ont affaire à des hommes armés qui sont dans la forêt. Ça suppose qu'on devra déclarer cette zone opérationnelle de telle manière à ce qu'on puisse maîtriser ces terroristes et comprendre leur mobile et comment ils sont arrivés à se faire armer à l'intérieur du pays. Voilà autant d'éléments. Je crois que le compatriote a raison, mais parler... Et il fait de mal, disons, que c'est un échec, effectivement, parce qu'il se pose des problèmes de sécurité qui commencent à prendre corps à travers toute la République, avec le risque de se retrouver dans un environnement ingouvernable. Le député, tout à l'heure, a sa allusion à cette question de l'absence d'autorité de l'État. Est-ce qu'il n'était pas grand temps de convoquer tous ces chefs de territoire de la République pour mieux les écouter, les problèmes qui se posent dans ces territoires? Avant même que le programme qui est prévu pour eux de 145 jours aille, je pense que les appeler à tout ça pour comprendre ces éléments. Sinon, on risque de retomber dans des conflits à travers la République. Si un tel village a bénéficié d'un hôpital et l'autre n'a pas pu bénéficier, ça risque de créer d'autres types de problèmes. Je disais au début, gouverner, c'est prévoir. Ces signaux et ces indicateurs que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui étaient à Kwamutu, ils sont en train d'aller maintenant vers Kwilu, la destination commune, et je suis d'avis avec le député tout à l'heure, que ces gens sont organisés, ils ont leur objectif. Il appartient maintenant au gouvernement de détecter les cerveaux qui sont derrière cette opération satanique de telle manière à ce que la paix soit retrouvée. C'est pour cette raison que moi j'encourage le mesure de déclarer ces zones opérationnelles, l'interpellation du ministre de l'Intérieur, sous l'organisation des États généraux. Les États généraux, c'est la paix et cohabitation pacifique entre les communautés et le problème des terres. Je crois que le ministre des Affaires foncières devra aussi être interpellé pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe dans cette question liée aux affaires foncières. Le ministre de l'Intérieur, savait, il donne des arrêtés à gauche, à droite, ça crée pas mal de conflits qui nous amènent aujourd'hui à la situation que nous sommes en train de déplorer. Donc, je suis de son avis que la zone doit être déclarée zone opérationnelle.
Fidèle Lumeya, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kinshasa.
Junior, bonjour, pour partir des villes de Kinshasa. Aucune surprise. Au début du conflit, le gouvernement congolais avait semblé minimiser l'affaire. Et voilà que la situation tend à prendre une autre allure jusqu'à s'exporter au Kwilu avec les proportions inquiétantes. Je pense qu'il est impérieux pour le gouvernement congolais de s'impliquer davantage afin de mettre fin à cette aventure, car au-delà de la situation sécuritaire dégradante, la crise humanitaire est déjà alarmante. Alors, à cet effet, il faudrait aussi penser comment renforcer les fonctions régaliennes de l'État dans certaines parties du pays et d'assurer un encadrement des pouvoirs coutumiers, d'autant plus que souvent, pour ce genre de conflits, ce sont des conflits coutumiers qui sont à la base.
Brève réaction, Fidèle Lumeya. Fidèle Lumeya, vous êtes en ligne? On a perdu Fidèle Lumea, la réalisation va essayer de le retrouver. Dédé Moupassa, nous sommes à plus de 20 000 déplacés d'Ekwamout qui ont fui les combats entre Teke et Yaka. Ils ont besoin d'aide. Est-ce qu'il y a une organisation au niveau de vous, notable du Grand Bandundu, député, pour venir en aide à ces déplacés, même si on sait que c'est le rôle du gouvernement de pouvoir assister ces personnes?
Vous le savez que c'est le rôle du gouvernement, vous voulez en tirer sur les députés, sur les médias, c'est pas bon. Ce qu'il faut dire, c'est mobiliser tout Congolais, parce qu'il ne faut pas apprendre seulement les notables. On en a fait ici, donner des habits à gauche, quand ça touche à l'Est, on l'a fait. Mais ici, je décris vraiment, à chaque fois qu'il y a même des pluies, où il y a des problèmes d'érosion ou quoi ici, des calamités à l'Ouest, ça, excusez-moi de le dire, si le ministre est de l'Est, pour trouver de l'argent. Le ministre d'Affaires sociales, nous avons... L'État est organisé. Le ministre d'Affaires sociales humanitaires a des réserves. On a doté de l'argent à ce ministère. C'est pour lutter contre ce genre de choses, pour intervenir, pardon, dans ce genre de choses. Mais vous allez voir une lettre, un bon, qui va faire de moi comme s'il n'y a pas de gens là-bas. À Bandundu, on a pleuré aujourd'hui, ça fera 10 ou 15 jours. Il n'y a pas d'urgence. Personne, on n'a vu personne aller avec une boîte de tomates ou des habits. Personne. Ça, c'est l'État. L'État est organisé. Nous faisons notre travail pour dire, dans le budget, on a donné quand même une ligne de crédit qui, aujourd'hui, devait être fonctionnelle. Et j'appelle au ministre des Finances, au ministre de budget et tout le monde de s'embarquer. Ce n'est pas une affaire de gens du coin, non. Ce concept-là ne tient pas. Moi, je suis député national. Et ce problème qui arrive, c'est un problème national. Ça doit toucher tous les Congolais. Il n'y a pas deux, trois jours à côté des initiatives, vous les demandez. J'ai appelé mes collègues, mes anciens collègues, je veux dire, de la FEC, Katanga, avec le président Moulande, pour voir dans quelle mesure ils peuvent me venir en aide. Comment ils peuvent envoyer les gens, parce que d'habitude, c'est ce que nous faisons. Et à gauche, à droite, le gouverneur un peu plus nanti, et tout, parce qu'il est déboussolé, le gouverneur de Bandundu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les loger où? Là-bas, la pluie a déjà commencé. Donc, il faut vraiment qu'on agisse le plus vite possible, mais qu'on ne regarde pas les natifs, qu'on ne regarde pas les originaires ou c'est pas moi quoi. C'est un problème d'État, c'est un problème de la nation, ça nous concerne nous tous, madame.
Quelles sont vos propositions d'aider Moupassa pour mettre fin à ce cycle des violences?
Oui, pour mettre fin à ce cycle des violences, il y a beaucoup de matière, madame. D'abord, ce genre de violence, ce sera mis à côté seulement quand l'État est présent avec des instruments de répression. L'armée, la police, spécialisée ou pas. Alors, les administrateurs de territoire, d'être les gens qui peuvent sillonner pour avoir des informations. La communication, je vous dis pour l'instant, il y a des antennes, il y a des endroits, il n'y a pas des antennes de communication. Ils sont encore en plein 17e siècle. Alors, ils ne peuvent pas communiquer, même s'ils voient l'ennemi, même s'ils voient un faux mouvement. Comment ils vont communiquer? Les moyens de communication, que ce soit dans les télécoms, que ce soit dans les routes. Fidèle. Alors ça, on doit accélérer pour prioriser d'abord cela dans la République tout entière. C'est à ce titre-là que la sécurité va avoir le point zéro. Et ensuite, les agents de l'ANR, ils sont centralisés dans les villes. Des DEMIAP, ils sont centralisés dans les villes. Les informations ne circulent pas. L'intérieur a été abandonné, l'intérêt du pays. Abandonné, madame. Nous devons tout faire. Et c'est comme ça que vous voyez que le président de la République revient tout le temps sur les 145 territoires, parce que pour lui, le développement doit décoller à partir de l'intérieur du pays. Donc, pour moi, c'est sur ça que nous devons tabler. Ce n'est pas une réponse qui va tomber directement. Il y a beaucoup d'instruments d'État qui est orienté vers l'intérieur du pays. Nous avons tout un ministère du développement rural. Il faut faire fonctionner, activer ce ministère. Nous avons la caisse de péréquation. Il faut l'activer. Nous avons la police territoriale. Il faut l'activer. Nous avons toutes ces organisations-là. Il faut le pousser à être actif, et je pense qu'on trouvera l'intérêt dans tout ce que nous faisons. Les populations s'interfèrent, les populations sont ensemble de temps en temps. Dans mon village, je trouve les batetés là-bas qui font leur commerce. Restez paisiblement là-bas, continuez à faire vos travaux. Ça, c'est le groupe des bandits qui est en train de guetter et de faire du sabotage, à mon avis.
Merci, Dédé Moupassa. On va considérer cela comme votre conclusion. Jonas Tchoumbela, vous allez aussi conclure vos propositions. Il y a certaines personnes qui demandent à ce qu'on organise un dialogue avec tous les fils du grand Bandundu. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je souscris à cette proposition parce que nous tenons à la paix dans cette partie de la République qui aujourd'hui est troublée. Nous appelons, nous saisissons de votre micro pour l'enceinte du grand peine au ministère des Affaires sociales et humanitaires ainsi que les organisations internationales pour venir en aide à ces milliers de compatriotes qui sont aujourd'hui dans la nature, qui ont perdu des maisons, qui ont perdu de l'air, qui ne savent pas à quel point se vouer. Il faudra qu'une aide vienne vite d'abord pour ceux qui sont restés vivants et qu'ils soient mis dans des conditions de sécurité. Nous en appelons également à l'interpellation du ministre de l'Intérieur pour quand même connaître plus de lumières sur cette question qui serait derrière ces dégâts qui se passent dans la partie cette partie de la République. Nous appelons également à ce que le ministère des Affaires foncières puisse clarifier les choses sur ce qui appartient à tel ou tel ou autre clan de telle manière qu'on ne puisse plus tomber dans ces états de conflit. Enfin, les états généraux des conflits communautaires en République démocratique du Congo s'imposent. C'est ça aussi. Les provinces où ces conflits sont déclarés, je pense que le faire aussi au niveau provincial, ça ne sera pas une mauvaise chose parce que chaque province a sa particularité. Renforcer la présence des services de renseignement et militaires et civils sur le terrain de telle manière à ce que les choses soient prévenues de manière réelle et outillées la police locale de telle manière à ce qu'elle puisse faire face à des situations qui sont imprévisibles et explosives à tout moment.
Merci Jonas Tchoumbela, fidèle Lumea, enseignant et chercheur dans le domaine de la transformation des conflits. Comment mettre fin à ces conflits?
Je voulais ici souligner que ça fait une année et demie, madame, que mon cabinet de consultants sur l'analyse des conflits a aborder le ministère des Affaires intérieures. Parce que les affaires intérieures ont l'attribution de former les analystes de conflits dans les 145 provinces. C'est écrit dans leurs attributions constitutionnelles. Mais vous savez quoi? Ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas les contenus. Nous, on a voulu travailler avec eux parce qu'ils ont le mandat que la Constitution leur donne. Mais ils n'ont pas d'argent. Donc, tous ces conflits d'aujourd'hui, si on ne résout pas là maintenant, nous allons toujours continuer. Et le second point est que les leçons apprises des conflits de l'Est, où est-ce que nous les appliquons? Parce que quelque part, quelqu'un doit consommer les leçons apprises. Yumbi, ça fait pas longtemps. Si quelqu'un avait fait l'analyse et avait tiré les leçons de Yumbi, Maïndombe ne devait pas tomber. Maintenant, on est en train de parler des gens qui sont en train d'aller plus loin dans les Kwilu. Quelles sont les leçons apprises du ministère de l'Intérieur et comment elle va mettre cela en application? Si ces études-là ne sont pas faites, alors nous allons continuer toujours de conflit en conflit en conflit. Or, il y a lieu d'arrêter cela. C'est en prenant les leçons apprises des conflits qui ont commencé à l'Est et qui sont arrivés à Yumbi, et voir comment les arrêter pour que cela n'arrive pas. Parce que la structure des conflits est la même. Partout, elle commence de la même façon. Mais il faut mettre déjà les leçons apprises et les applications en route. Donc, merci. Il faut un budget. Il faut un budget consistant.
Merci fidèle Lumea. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Dola Madimba qui l'a réalisé. Mimi Kindou était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.